Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus.
Bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore présents sur cette antenne pour dans le cadre de l'émission Études sur Cantique. Et cet après-midi, nous aurons le plaisir de partager avec vous un temps de louange. Et ensemble, on va étudier les paroles de cette louange. Vous verrez bien de quoi parle cette chanson. Et la louange que nous allons étudier cet après-midi est intitulée « Béni sois-tu, le Seigneur », que je vous laisse écouter dès à présent.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses, nous te bénissons.
Béni sois-tu pour
Béni sois-tu est la chanson que nous aurons à étudier dans cette émission. Vous le savez d'habitude, quand nous écoutons la chanson ainsi, nous vous lisons les paroles de cette chanson et après nous suivons le commentaire biblique avec notre bien-aimé, l'autre Laurent, que je salue. L'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Oui, l'autre Laurent, bonjour.
Bonjour Olivier.
Oui, très bien. Peux-tu nous donner les paroles de la chanson, là? On va procéder à la lecture de la chanson.
On commence avec le refrain. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demeure céleste. Premier couplet. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, pleine de gloire et pleine de lumière, ineffable félicité. Deuxième couplet, là le bonheur est sans mélange, là le péché n'existe plus là-bas. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Troisième couplet, dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison de notre Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Quatrième couplet, bienvenue dans notre cité, dans la demeure paternelle, Jésus dira à tous les rachetés, entrez dans la joie du Père. Cinquième couplet, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tu donneras à celui qui a soif la source de l'eau de la vie. Sixième couplet, Jésus c'est toi qui es le Christ, Jésus-Christ tu es le Messie, c'est toi seul Seigneur qui nous rassasie, car tu es le pain de vie. Septième et dernier couplet, ô, c'est toi que nous attendons, c'est toi Seigneur que nous aimons, ô Seigneur, après toi nous languissons, viens nous prendre auprès de toi.
Très bien, nous avons en tout 7 couplets et plus le refrain, on va y aller rapidement à cause de la longueur de la chanson. L'autre Laurent, je ne sais pas si tu as pu recueillir des informations sur l'auteur de cette louange.
Oui, mais la chanson est l'œuvre de Henriette Mbarga, qui est une chrétienne très engagée, qui a été appelée très tôt au ministère d'intercession. Dieu lui avait clairement dit d'intercéder pour le fondateur de la CMCI, Zacharia Tane Fomom. Donc elle a fait ça toute sa vie, jusqu'à ce que le professeur, comme il est professeur bien entendu, ne quitte la terre pour aller de l'autre côté de la vie. Mais en plus de cela, elle avait été aussi appelée au ministère au célibat, autant pour moi. Au célibat, oui bien sûr.
Donc elle est célibataire
jusqu'à maintenant, dans l'état actuel de mes connaissances, elle est restée comme cela. Parce que Jésus lui a dit, je te veux pour moi tout seul. Donc, elle est très engagée dans le ministère de l'intercession et de la prière. Elle est responsable aussi des unités qui axent l'enseignement sur le jeûne et la prière. Mmh. Au sein de l'institution, ils ont ce qu'ils appellent l'Université mondiale de prière et de jeûne. Et cela concerne tous ceux qui sont appelés au ministère de la prière, de l'intercession. Mmh. Donc, avec de différentes strates où vous avez le niveau primaire, le niveau secondaire, tout comme on a la structuration d'un point de vue académique, ils ont des choses comme cela où on verra si vous êtes à même de prier, de jeûner. Elle au début trouvait difficile de jeûner pendant 3 jours d'affilée, mais avec le temps et comme le ministère de professeur Zacharia Tane Fomom est axé sur le jeûne et la prière et l'enseignement de la parole. Donc, Henriette Mbarga a pu faire, je crois, jusqu'à ce jour, elle doit avoir déjà fait 40 jours de jeûne, je crois, 2 fois ou 3 fois, je sais plus. Donc, vous avez déjà une idée de la personne. Et à cette époque-là, elle avait commencé, et plus tard, elle pouvait prier pendant 8 heures de temps d'affilée. Pas prier 1 heure, s'arrêter, non, mais 8 heures d'affilée.
Wow.
Et donc, là, vous pouvez comprendre pourquoi elle chante.
Elle chante.
Ouais. Parce que quand vous vous laissez à Dieu et que vous avancez dans la profondeur de la prière, vous ne pouvez que le louer. Parce que là, l'esprit est disposé et vous comprendrez alors pourquoi Paul a dit qu'il faut chanter sous le feu de la grâce depuis notre cœur. Donc, c'est de l'intérieur qu'émanent les effluves de louanges, d'adoration pour toute personne qui est véritablement rachetée par Christ.
Très bien. Nous allons y aller vraiment. C'est une sœur bénie, hein. À écouter sa biographie. C'est vraiment une sœur bénie qui s'est donnée au Seigneur, qui vit dans le célibat. Ce n'est pas chose facile.
Bien sûr.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je comprends pourquoi elle commence cette louange par une série de bénédictions à l'égard de notre Seigneur. Et on va commencer avec le refrain. L'autre Laurent, on va commencer par écouter le refrain et on va faire un commentaire sur cette partie de la chanson. On y va avec « Béni sois-tu », juste le refrain.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demain céleste.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demain céleste.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Voilà, ce refrain-là, à ce niveau, la sœur, je pose la question comme ça, pourquoi la sœur bénit-elle le Seigneur Jésus pour toutes les promesses, pour
oui,
le ciel
oui.
et pour la demeure céleste? Pourquoi cette série de bénédiction prononcée à l'égard du Seigneur?
Alors, si vous êtes habitué aux Saintes Écritures, vous comprendrez aussi que les enfants d'Israël, avec un regard rétrospectif, se sont rendus compte que toutes les promesses que Dieu avait faites à leurs ancêtres, et plus tard, par ricochet à eux, ces promesses s'étaient accomplies. Voilà pourquoi Josué l'a dit dans Josué, le chapitre 21, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. En d'autres termes, Dieu est fidèle à ses promesses. Ça, c'est l'Ancien Testament. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle dans Psaume 138, le verset 2, dépendamment des versions, dans le second, il est dit, je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ça veut dire, tu t'es fait connaître comme un Dieu qui est fidèle à sa promesse. Dans la version Darby, il a plutôt dit ceci, « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » En d'autres termes, ta parole qui est sortie sous forme de promesse à ceux qui te connaissent montre que ce qui tu as dit que tu es, tu l'es. D'accord? Donc là, maintenant si on revient dans le texte et quand l'auteur dit pour toutes tes promesses, oui, mais si quelqu'un est réellement converti, la personne peut confirmer par sa vie la réalité des promesses de Dieu. Il a promis nous pardonner nos péchés. D'accord? Nous affranchir de la puissance du péché. Il a promis nous purifier. Il a promis nous donner un cœur pur. Il a promis nous remplir du Saint-Esprit. Il a promis nous sceller du sceau de son esprit. Tout cela s'accomplit. Il a promis la guérison pour notre corps. Et quand on est enfant de Dieu, si vous êtes véritablement converti, vous êtes enfant de Dieu, vous savez que le Seigneur a été fidèle. Quel que fût le nombre de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, de tout ce que nous avons fait, méritions le jugement de Dieu. Dieu, dans son amour, nous a pardonné en Jésus-Christ. Quand nous avons confessé nos péchés, nous les avons abandonnés. Il nous a non seulement pardonné, il nous a purifié. Là, c'est deux. Il nous a justifié. Il nous a déclaré juridiquement juste. À cet instant précis, et pour faire un pas de plus, il nous introduit dans sa famille, il nous a adoptés dans sa famille sainte, et en plus de cela, il nous a donné d'être revêtus de la robe de justice, de la justice qui est en Jésus-Christ, et quand nous avons demandé la guérison pour ceux qui étaient malades, il nous a guéris, et pour le restant de notre vie, si nous sommes malades, nous allons en lui, il nous guérit, et quand nous avons demandé le baptême dans le Saint-Esprit, il nous a rempli du Saint-Esprit, et dès cet instant, il rend le ciel réel pour nous, il rend sa parole vivante pour nous, et nous aussi, nous pourrons
nous retrouver dans ce qu'elle est en train de dire. Nous te bénissons pour toutes tes promesses pour la demeure céleste. Maintenant, pour ça, c'est merveilleux parce que, justement, le Seigneur Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. D'accord? Si votre foi devait finir ici-bas, je vous l'aurais dit. Mais il y a au-delà de cette vie une autre réalité. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse de la demeure céleste. Et là, c'est merveilleux parce que, justement, il a fait la promesse et dans le Nouveau Testament, les saints ont expérimenté le ciel avant la mort. Vous prenez par exemple Étienne dans Actes chapitre 7, le verset 55. La Bible dit qu'il a levé les yeux et il a vu le ciel, il a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Ça c'est un. Deux, l'apôtre Paul nous dira plus tard dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2, qu'il avait expérimenté la réalité du ciel quand il a dit... Je connais un homme en Christ, il y vit 14 ans, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Tu vois un peu? Mais quand vous rencontrez Paul comme cela, rien sur lui ne vous dira qu'il a vu le ciel. Mais c'est sa vie, c'est son zèle qui vous dira, ce monsieur doit avoir vu quelque chose. Voilà pourquoi il pouvait accepter être battu, il pouvait être dans toutes les circonstances les plus déconcertantes que possible, et pourtant il continuait la marche. Tu vois un peu? Il a vu. Donc, nous avons premièrement Étienne, il a vu. Deuxième cas, nous avons Paul qui a vu. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Voyez un peu? Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ça veut dire que l'Apocalypse, Jean l'a reçu dans la perspective du ciel. C'est-à-dire, il est monté, il est resté dans le ciel, et il a vu maintenant, par de son regard, il a projeté le regard selon la révélation qui lui a été donnée. Donc vous voyez là, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est possible d'avoir une révélation de ce ciel dont la Bible nous parle. Donc ici, l'auteur a raison de se réjouir et de bénir le Seigneur de ce que Dieu a fait toutes ses promesses et que le ciel aussi est une garantie pour ceux qui sont réellement convertis.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel.
Nous allons dès à présent aborder la première strophe. Et dans cette partie de la chanson, l'autre Laurent, je crois savoir que la dame fait une description du ciel. Elle décrit le ciel. Et cette description, à ce niveau-là, quelle description fait-elle du ciel en réalité? Que dit-elle du ciel?
Bon, elle dit que c'est la maison du Père.
Oui.
D'accord, le ciel c'est la maison du Père. Et puis maintenant elle montre, de par son vocabulaire, elle parle de ce ciel de la maison du Père qui est étincelante de beauté, qui est pleine de gloire, qui est pleine de lumière. Et pour finir, elle dit, c'est une ineffable félicité.
Très bien. Mais est-ce que, en voyant la chose comme ça, n'a-t-elle pas fait l'expérience? Peut-être qu'elle a fait l'expérience, hein? Il se peut.
Oui, mais si d'après ce que nous venons de dire, quelqu'un qui prie 8 heures de temps par jour, disons au début, je crois qu'avec le temps, ça va évoluer un peu plus que ça. Il y a une chose qui est claire, hein, et qui est indubitable, et qui est certaine. Plus vous priez, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et plus vous priez en esprit, plus vos sens spirituels sont activés. Mmh. Et moins vous vous laissez influencer par les choses de ce monde. Mmh. D'accord? Et quand quelqu'un est dans cet état-là, la personne a des ravissements, comme on le dit souvent. Mmh. Et c'est tout à fait normal de voir ces réalités-là. Mmh. Ici, donc, ce qu'elle est en train de dire, quand elle ne peut que dire ça, hein, parce que quand on fait de telles expériences, ce dont l'on est conscient, c'est que vous n'avez pas le vocabulaire approprié pour parler de ça. Mmh. D'accord? Les mots du langage humain, du langage charnel, ne peuvent pas décrire les réalités spirituelles. Ça, là, c'est impossible. Voilà pourquoi les gens vous disent...
Je manque de mots.
Ou bien ce que j'ai vu, il n'y a rien sur cette terre qui soit comparable à ça. Oui, ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est deux mondes différents. Mmh. D'accord? Et donc, souvent, nous savons qu'une maison est à l'image de son propriétaire. Mmh. D'accord? C'est pour cela que les maisons ne sont pas les mêmes. D'accord? Quand vous voyez une maison, vous savez, vous vous faites une idée de qui habite cette maison. Mmh. Donc, une maison est à l'image de la personnalité, du goût et de la capacité du propriétaire, très très souvent. D'accord. Donc là, si on comprend la chose comme ceci, Hébreux chapitre 3 nous dit ceci, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Ça veut dire, humainement parlant, il n'y a pas de maison qui existe par elle-même. Quelqu'un a construit, n'est-ce pas? Maintenant, Hébreux chapitre 11, verset 10, quand il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, et le constructeur. Vous voyez un peu? Un homme peut demander qu'on lui construise une maison. C'est tout à fait normal. Mais quand vous voyez la maison d'un architecte, vous comprenez que ça, c'est la maison d'un architecte. Et ici, dans l'épître aux Hébreux, il est dit que Dieu est l'architecte et le constructeur.
Très bien.
Du ciel. Mmh. Ah, donc vous pouvez vous imaginer. Mmh. Si vous avez une idée de la personnalité de Dieu, vous avez une idée de du goût de Dieu, de sa capacité, alors là, vous comprenez pourquoi il est impossible à un être humain de pouvoir décrire la beauté du ciel. Voilà.
Très bien. Mmh. Une autre question me vient à l'esprit.
Oui.
Cette description qu'elle a eu à faire avec, avec ces faibles mots qu'elle a utilisés, est-elle conforme aux Saintes Écritures?
Bon, là, on dira, bon, quand elle parle de beauté étincelante, parle de gloire, parle de lumière, là, c'est tout à fait en droite ligne avec ce que dit la parole de Dieu. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous vous faites une idée déjà de ce que c'est. C'est un endroit merveilleux. Si vous l'avez une fois vu, vous ne voudrez pas, pour tout l'or du monde, perdre le privilège de passer l'éternité là-bas. D'accord? Si quelqu'un vous dit avoir une fois vu le ciel et puis après commence pas à errer là, vous savez que la personne n'a rien vu.
Il n'a pas vu le ciel.
Si vous voyez la chose même, vous accepterez tout ce que ce monde peut vous infliger, mais vous savez que vous irez de l'autre côté.
Très bien.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses, nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demain céleste,
béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes
continuons dans cette émission et nous abordons le deuxième couplet. À ce niveau, l'autre Laurent, la dame continue par parler du ciel. Et ce qui m'étonne, elle énumère ce que nous retrouvons au ciel. Elle dit là-bas, elle dit, là le bonheur est sans mélange, là le péché n'existe plus, là-bas c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Que faut-il en penser?
Oui, mais là, après avoir décrit
le ciel,
maintenant parle de l'atmosphère, de l'ambiance, de la vie là-bas. Donc là, il faut comprendre que quand elle parle de bonheur et sans mélange, ça veut dire que c'est ce que en français on appelle la félicité.
Okay.
D'accord. Oui, c'est la félicité. Bon, elle dit que le péché n'existe plus, oui.
Le péché n'existe plus là-bas.
Oui.
Il n'y a pas de péché là-bas.
Non.
On n'est pas influencé par le péché.
Ni par la tentation, ni par le péché. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que là, c'est la sainteté, la pureté. Donc, là, quand on lit, ensuite, elle parle de l'amour et de la louange. L'amour, c'est le trait caractéristique des rachetés. L'expression de l'amour sera manifeste entre les saints, et puis elle parle de la louange. Oui, parce que quand je lis par exemple dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, le verset 8, quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Là, vous voyez la création angélique et la création humaine rachetée en train de louer le Seigneur. Et quand on continue, vous verrez que c'est la normalité, la louange, l'adoration. C'est vrai qu'ici, de ce côté-ci, très peu ont conscience de quand on parle de louange, quand on parle d'adoration. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit et très peu parviennent réellement dans cette atmosphère-là. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Tu vois un peu? Là, c'est... Quand tu lis ces choses, tu te remémores l'Ancien Testament, d'abord, où le peuple d'Israël, quand il est en de bons termes avec Dieu, vous allez voir ces gens de réaction face à la présence de Dieu. Le peuple qui se prosterne sur sa face pour adorer Dieu. C'est de cela que l'islam a tiré les génuflexions, tout ça. Là, ça vient du judaïsme. Hein. Il faut être juste d'un point de vue historique. Le judaïsme existait et l'islam est venu. Donc, ils ont pris un peu. Maintenant, sous la nouvelle alliance, ce qui est étrange, c'est que les gens ne parviennent pas à ça. Grâce à ceux qui le font. Nous tenons souvent debout pour louer Dieu, mais quand tu veux faire une étude poussée, le chara, c'est le fait de se prosterner face contre terre devant Dieu. Et ça ne se fait pas de façon machinale, mais c'est parce que la réalité est là. D'accord? Quand la présence de Dieu vient vers vous, cette présence s'impose à vous. Il vient vers vous, Dieu est debout, vous allez vous retrouver par terre. D'accord? On n'a pas le temps pour aller dans la profondeur de ces choses. Le dernier passage que je vais lire, c'est Apocalypse 19, le verset 4, et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour toutes tes promesses, nous te bénissons pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste,
béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu pour
Nous attaquons dès à présent le troisième couplet. Voilà ce qui est dit. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison de notre Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Alors, l'autre Laurent, elle est en train de dire, elle communique un message. Hein. Elle veut dire, en dépit des difficultés, là, nous devons persévérer, on doit savoir que le ciel est devant nous.
Ah oui, bien sûr.
C'est ce qu'elle entend dire.
Oui.
Je suis sûr que la dame aurait vu le ciel. Hein. Je suis convaincu.
Je suis convaincu
parce que ce qu'elle dit, c'est très fort. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison de notre Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs.
Oui, mais ces choses, ça se comprend lorsque le croyant prend conscience de son identité. Qui sommes-nous? D'accord?
Oui.
Et puis, non seulement notre identité, notre destination, où allons-nous?
Oui.
D'accord? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, parce que le Messie n'était pas encore arrivé. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Dès que quelqu'un perd de vue son identité, je suis un étranger et un voyageur sur la terre, cette personne commence par s'accrocher au matériel et perd de vue le ciel. Et quand quelqu'un perd de vue le ciel, il peut plus vivre dans la pureté. Il peut plus vivre dans la sainteté. Cette personne peut aisément compromettre sa foi pour obtenir le matériel. Dans 1 Pierre chapitre 2, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle maintenant dans le verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tu vois? Donc, ça, c'est des gens qui ont expérimenté la réalité de la vie spirituelle, mais en même temps, l'influence des convoitises charnelles. Et quand aujourd'hui tu enseignes sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et quand tu en parles, on pense que tu es quelqu'un qui est ringard et qui a une vie primitive de la vie chrétienne. Non, vous pouvez pas être un chrétien et en même temps, vous accoquinez avec le monde. On ne peut pas être un saint et un mondain en même temps. D'accord? Vous ne pouvez pas être saint et être mondain en même temps. Alors donc, là, ces passages que je viens de lire nous donnent de comprendre que nous prenons conscience de notre identité. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Si c'est sur la terre, voyageurs sur la terre, alors maintenant, quel est l'aboutissement? C'est le ciel. Et donc là, la vie qu'on mène là-bas, c'est une vie de sainteté. Et ça commence dès ici. L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Parce que ce corps-là que nous avons actuellement ne peut pas vivre dans l'atmosphère du ciel. Donc ce corps doit être transformé en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà, c'est des choses comme cela qui permettent à un croyant de se dire, qu'importe les épreuves, qu'importe l'opposition et tout le reste, je dois garder en vue ma destination finale, c'est le ciel. Étienne a vu le ciel, et quand on le lapidait, vous lapidez le corps de quelqu'un qui a vu le ciel. Vous lui faites quoi? Vous l'aidez à entrer vite au ciel.
Ah ouais.
D'accord? C'est pour cela que, et ces choses même nous enseignent. Et ça montre l'état de son cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce monsieur avait le cœur pur. C'est pour cela qu'il avait vu le ciel. Et quand on a le cœur pur, le cœur pur ne peut pas être influencé par la haine, vouloir avoir, chercher à faire du mal à l'autre. Non. Mais quand vous prenez l'apôtre Paul, j'en ai parlé tantôt, lui aussi, C'est parce qu'il a vu ces choses qu'il pouvait accepter les défis de la vie. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Vous voyez? Quand on lit tout ça là, de la vie d'un être humain, vous vous dites, comment il fait pour continuer? Mais c'est parce qu'il a vu le ciel. C'est parce qu'il a, une communion poussée avec le Seigneur. Il entend quand le Seigneur lui parle. Quand Jésus lui parle, il sait que c'est Jésus qui a parlé. Tu vois un peu, dans Actes chapitre 14, je crois bien, on l'avait lapidé.
Ouais.
Et on l'a traîné par terre parce que pour ces gens-là, il était mort. Donc, il faut aller le jeter sur, sur la décharge publique et autres. Et on l'a laissé. Les disciples l'ont entouré, certainement qu'ils ont prié et il s'est relevé. Mais quand il s'est relevé, il a retourné dans la ville. Pourquoi il accepte toutes ces souffrances sur sa personne? C'est parce qu'il sait ce qu'il attend après. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 12, verset 1, il nous est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Prenons Jésus comme exemple. Ne prenez pas David comme exemple. Prenez Jésus comme exemple. Ne prenez pas Abraham comme exemple. Prenez Jésus comme exemple. Ne prenez pas Moïse comme exemple. Prenez Jésus comme exemple. Ne prenez pas Paul comme exemple. Prenez Jésus comme exemple. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, la joie était réservée où? Au ciel. A souffert la croix. Une épreuve où l'humiliation est à son summum, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Voilà ce sur quoi doit porter nos réflexions en tant qu'enfants de Dieu quand nous sommes en proie à l'adversité, aux défis de la vie et à l'incompréhension et aux attaques de l'ennemi et tout le reste. Nous devons garder nos yeux, autant pour moi, nos yeux rivés sur le ciel. On veut aller au ciel, on doit aller au ciel. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas vivre dans le péché.
Pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Au ciel et la mer.
Avec les paroles du couplet 4, là, nous sommes dans la demeure paternelle, selon ce qu'elle est en train de dire. Et elle a prononcé une parole que je retiens, et je veux là des explications à ce niveau, l'autre Laurent. Elle dit, Jésus dira à tous les rachetés, entrez dans la joie du Père. Alors, je veux savoir, qui nomme-t-elle pas racheté? J'ai l'impression qu'il y a une confusion à ce niveau. Qui appelle-t-on racheté?
Il n'y a pas de confusion. Les rachetés, c'est ceux-là qui ont cru au sacrifice expiatoire de Christ et qui ont été fidèles jusqu'à la fin de leur existence. C'est ces gens-là qu'on appelle les rachetés. C'est les rachetés de Christ.
Très bien.
Apocalypse chapitre 5, il est dit ceci, verset 8, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé à la croix du calvaire. Et tu as racheté, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. D'accord? Ça, c'est le rachat. Ce qui vient après le rachat, et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Dans Luc II, il a dit un royaume. C'est des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Apocalypse 21, verset 3, il est dit ceci. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes rachetés. Quand on parle des hommes ici, on veut parler de l'humanité rachetée. D'accord? Il habitera avec eux et ils seront son peuple. C'est le nouveau peuple de Dieu. Ensemble des juifs convertis et des païens convertis. C'est ça qui forme le nouveau peuple de Dieu. Et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, il n'y a pas de, confusion.
Très bien. Oui, je veux encore d'amples explications. Tous les chrétiens, normalement, doivent être rachetés. Tous les chrétiens doivent être rachetés.
Bien sûr, bien sûr.
D'accord?
Oui.
Mais aujourd'hui, on voit une confusion. On se dit chrétien, mais.
Ok, je comprends pourquoi tu parles de confusion.
Ce n'est pas tout à fait ça.
Oui.
C'est ce que je veux dire, quoi.
Oui, voilà. Là, c'est clair. C'est clair que beaucoup de gens pensent qu'ils sont convertis alors qu'en réalité, ils ne le sont pas.
Ils ne sont pas rachetés.
Non.
Ok.
Parce que ils n'ont pas souscrit au principe de la nouvelle naissance.
Oui.
Selon Dieu.
Oui.
D'accord?
Okay, oui.
C'est la repentance envers Dieu. Pourquoi je me repens vis-à-vis de Dieu? Parce que je suis un pécheur.
Très bien.
J'accepte que je suis un pécheur.
Oui.
Et je mérite le jugement de Dieu. Et j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour cela que Paul a dit, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un écoute ce message, quand on lui présente l'évangile de cette façon et que la personne est sincère, elle se répand, elle met sa foi en Christ, l'Esprit de Dieu provoque maintenant un changement dans la personne. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. D'accord? Et la personne est engendrée par Dieu. Et dès cette instance, la nouvelle nature qui entre dans cette personne maintenant, la pousse à aller plutôt dans le sens de ce que Dieu aime, de ce que Dieu veut. Mais aujourd'hui, on a plein de gens qui sont plus des religieux que des rachetés, que des gens qui ont pris la résolution de marcher avec le Seigneur jusqu'au bout de leur existence. Aujourd'hui, il y a plein de gens, les églises sont remplies les dimanches et tout le reste, mais c'est la vie, c'est la vie. Quand la vie nouvelle rentre dans quelqu'un, son témoignage change. On peut dire, avant il était comme ceci, avant elle était comme ceci, mais aujourd'hui. Mais quand on n'arrive pas à dire ça de façon factuelle, basée sur les faits, à propos de quelqu'un, c'est qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou les gens n'ont rien compris, ou bien ils sont hypocrites. Alors donc, quand tu as posé la question, pour moi, dans les Écritures, les racheter, là, c'est clair. D'accord? Christ a fait sa part en mourant à la croix pour nous tous, et il a versé son sang. Nous avons la responsabilité de croire en ce qu'il a fait, de nous départir d'avec le péché, de nous appuyer sur la grâce pour marcher dans la sainteté. Il est possible de marcher dans la sainteté.
Merci, l'autre Laurent. Bien, on va y aller avec le couplet... La strophe 5, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, tu donneras à celui qui a soif la source de l'eau de la vie.
Ouais.
Je vais en même temps enchaîner avec le couplet 6. Jésus, c'est toi qui es le Christ. Jésus-Christ, tu es le Messie. C'est ouais. toi seul, Seigneur, qui nous rassasie, car tu es le pain de vie.
Ouais.
Bon, je vois dans ces deux couplets un certain nombre d'énumérations qu'elle a eu à faire sur la personne de Jésus. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Ouais, l'alpha et l'oméga. Tu es le Christ, le Messie, et elle dit quelque chose sur le pain de vie.
Oui.
Tout ça, c'est Jésus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, quand on lit l'Ancien Testament et on fait une petite comparaison, vous allez voir que l'Écriture ne se contredit pas. Dans Isaïe 43, verset 11, il est dit, c'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Que me dit Jésus? Jésus veut dire... L'Éternel qui sauve son peuple.
Oui.
D'accord?
Oui.
Très bien. Ésaïe 44, verset 6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu.
L'alpha et l'oméga.
Très bien. Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus dit maintenant, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. De qui est-il question ici? De Jésus. N'est-ce pas? Apocalypse 21, verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc vous comprenez alors pourquoi l'apôtre Paul, un juif, et de surcroît un pharisien, quand il a été en contact avec le Christ glorifié, il a compris que celui qu'il a vu là, ça c'est Dieu. Or pour qu'un juif dise ça, c'est un blasphème. C'est pour cela qu'après, quand il écrivait à Timothée, il a dit à Timothée chapitre 1 verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Pourquoi il était un blasphémateur? Parce que lui aussi s'était joint au reste des pharisiens, pour vilipender Christ, pour dire que Christ est anathème. Et bien après, il s'est rendu compte que non, Dieu est venu sous une forme humaine. C'est pourquoi il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance. L'ignorance spirituelle conduit à l'égarement. D'accord? Dans l'incrédulité, parce qu'il ne croyait pas en lui. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire qu'il est devenu visible. A été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations. Qui est-ce que nous prêchons parmi les nations? Nous prêchons qui? Jésus-Christ. D'accord? A été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Donc, là, quand l'auteur cite tout ce qu'il est en train de dire à propos de Jésus, pour l'avoir rencontré, vous saurez qu'il n'est pas n'importe qui. D'accord? Et donc ici, quand elle dit que Jésus est le pain de vie, oui, c'est ce qu'il a dit lui-même dans Jean chapitre 6. Il a dit en faisant une analogie, en établissant une comparaison entre la manne que le peuple a mangée au désert, qui ne leur a pas conféré la vie éternelle. D'accord? Et lui maintenant, quand quelqu'un le prend, la personne a en elle la vie éternelle. Donc là, vous comprenez que le Seigneur n'est pas n'importe qui. Si vous savez qui il est, cela a un impact sur notre adoration, notre obéissance à sa parole et notre dévouement. Alors donc là, l'auteur a raison de dire ce qu'elle est en train de dire. Parce que c'est une question de compréhension spirituelle qui est conférée par l'esprit de Christ qui habite dans les rachetés.
Très bien. On va en même temps enchaîner avec le couplet 7. Je lis les paroles de cette partie de la chanson. Oh, c'est toi que nous attendons. C'est toi, Seigneur, que nous aimons. Oh, Seigneur, après toi, nous languissons, viens nous prendre auprès de toi. Comment peut-on interpréter cette partie de la chanson?
Oui, mais là c'est cela dépeint la vie des véritables enfants de Dieu. C'est-à-dire que il y a une lutte intérieure, il y a la nature déchue, qui essaie de s'imposer à nous pour nous ramener dans notre état initial. Il y a le monde qui s'impose, qui veut nous phagocyter, mm-hmm. d'accord? Mm-hmm. Et il y a les puissances des ténèbres qui, s'appuyant sur les rudiments du monde, et par ricochet touche notre nature déchue pour nous ramener en arrière. Et donc, ce qui fait que dans un véritable saint, dans un véritable enfant de Dieu, mmh. il y a ce soupir-là que nous avons, on veut quitter ce monde. Parce que qu'est-ce qui reste ici? Mais quand tu vois quelqu'un qui embrasse le monde, la mode et tout le reste, vous comprenez en même temps que... Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6, il est dit ceci, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ça, c'est parmi les Corinthiens. Le témoignage de Christ, la parole leur a été prêchée et ils avaient cru, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez les épîtres de Paul, hein, pas le temps pour ça, pour expliquer. Quand vous prenez les épîtres de Paul, vous allez voir que tous les saints de cette époque-là attendaient le retour du Seigneur. D'accord? Ils étaient dans l'attente. Vous prenez, Corinthiens, on l'a lu, vous allez prendre Romains, il y en a, il va en parler. Vous prenez l'épître aux Thessaloniciens, même chose. Vous allez, les saints de cette époque-là vivaient au jour le jour dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul maintenant va décrire ce dont parle l'auteur ici, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, tu vois un peu? Donc, il est en train de décrire ce qui fait le propre des enfants de Dieu. Il y a une partie de nous qui veut partir pour être auprès du Seigneur, tandis que, de ce côté-ci, la nature charnelle veut s'imposer et nous ramener dans les girons des puissances des ténèbres. C'est pour cela que nous vivons avec sérieux, en conservant une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons rien faire qui puisse entacher notre marche, notre témoignage. Hein? Quand l'auteur dit par exemple Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous. D'autres versions disent, poursuivez la paix avec tous. Frères et sœurs, maintenant, Romains chapitre 12 dit ceci, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas, ne doit pas garder rancune. Mmh. Si tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne, règle ça. Pourquoi? Tu es un étranger et un voyageur sur la terre. Si quelqu'un t'a offensé, va en parler avec la personne. Il faut pas te servir des réseaux sociaux pour faire passer des messages subliminaux et des messages, des allusions, tout ça. Il faut laisser ça, c'est de l'enfantillage. Jésus dit, si ton frère t'a offensé, va le voir, règle ça. Mmh. C'est ce que Jésus a dit. Et il dit, même si tu constates que cette personne doit avoir quelque chose contre moi, va régler. C'est ça la vie. Donc ça rejoint ce que dit l'auteur quand il dit, poursuivez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous. N'ayez pas quoi que ce soit à l'endroit de qui que ce soit. Et quand un enfant de Dieu pardonne, il pardonne. On ne pardonne pas après pour avoir des récriminations et chercher des moyens détournés pour se venger. Non, c'est pas biblique. Et dit maintenant, et la sanctification, la pureté sans laquelle personne ne verra Dieu. Frères et sœurs, si Jésus tarde à venir, un jour ma course va prendre fin. La course d'Olivier va prendre fin. Votre course va prendre fin en tant qu'individu. Ce que nous aurons été pour Dieu, de l'autre côté, vous n'aurez pas à débattre, je n'aurai pas à débattre. Dès que tu rentres dans l'éternité, ton sol est déjà fixé. C'est pour cela que dès ici, maintenant là, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec les gens, réconciliez-vous. Ça c'est un. Deuxième élément maintenant, cherche à avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Mène une vie qui honore Dieu. Quand tu quittes, tu iras directement chez le Père. D'accord? Mais si pendant que nous sommes là, c'est un autre temps qu'il vient, quand la trompette sonne, tu vas partir. Je partirai. C'est pour cela que nous faisons tout pour mener une vie qui lui soit agréable. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis.
Merci, l'autre Laurent. On va finir sur cette note-là. Et on va lire, je vais vous lire les paroles du refrain et la dernière strophe. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demeure céleste. Oh, c'est toi que nous attendons. C'est toi, Seigneur, que nous aimons. Oh, Seigneur, après toi, nous languissons. Viens nous prendre auprès de toi. Nous vous laissons avec la chanson. Béni sois-tu. Et à la semaine prochaine. Bye bye.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour toutes tes promesses. Nous te bénissons pour le ciel. Béni sois-tu pour la demeure céleste.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Pour le ciel, béni sois-tu pour la demeure céleste. Béni sois-tu.